Françoise Trossard et la belle équipe en piste pour la récré littéraire. Avec Des Jolis Dimanches et le droit de réponse à fleur et mouchetée de Lagardère à Féval, Jacques Bertrand.
Touchez ma bosse, monseigneur. Quelle horreur. Il est vrai que vous n'avez pas écrit cette réplique. Je le sais parce que j'entends les lecteurs. Tu te souviens, chérie, Jean Marais, dans Le Bossu, touchez ma bosse, monseigneur. Eh bien, je ne la trouve pas dans le roman.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué par des fous de périphrases ? Ensuite, les classes de rhétorique, avec le discours du délégué syndical aux butineuses par Patrice Caumont.
Là-haut, ils poussent tout de même le bouchon de cire un peu loin dans nos oreilles. Si ça continue, on va guillotiner la reine, ou pour le moins, lui passer une bonne dégelée royale. Travailleuse, travailleuse.
Suivra une page de Publi Papoucité et la textée de Lucas Fournier pour Jean-Bernard Pouy et Jacques Vallée. Nous sommes ensemble pour le plaisir du jeu jusqu'à 13h58. Un numéro des Papous à télécharger juste après l'émission et pendant un an sur franceculture.fr. Merci d'être à notre rendez-vous et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Le lundi, c'est Ravioli. Le dimanche, c'est... joli. Le dimanche d'hiver avec son petit déj au lit, un bon bouquin, son gigot flageolé, son goûter de chocolat fumant, les poireaux vinaigrettes du soir. On savoure le dimanche, on prend son temps. Et le dimanche au Papou se raconte en pastiche. Un nouveau joli dimanche par Lucas Fournier.
Le joli dimanche de Sacha Guitry. Le dimanche, ce n'est pas joli, non, c'est charmant. C'est délicieux. Mon Dieu, et ça a quelque chose de désarmant. Au théâtre, ce jour-là, le dimanche après-midi, on joue en matinée. Il n'y a pas de quoi s'étonner, c'est que les matinées du dimanche sont si grasses qu'elles débordent jusqu'à l'après-midi. Le dimanche est béni de Dieu doublement. Il y a ceux qui croient, évidemment, et ceux qui croient que le dimanche est le jour du Seigneur. Mais ceux qui aiment savent que ce jour-là tout entier est voué au bonheur, à l'amour du théâtre et des femmes. Et quand je dis femme, je ne dis femme pas. On peut y aller deux fois, en matinée et en soirée, au moins deux fois dans la journée. On commence dans la baignoire et c'est toujours très bon. On finit au balcon, imaginez un peu la scène. Je parlais du théâtre et des femmes à la fois. Il n'y a rien d'obscène. Le dimanche est le jour où l'on va au bois, et cela aussi est extrêmement plaisant. Les marronniers gardent leur feuillage de la semaine, mais les femmes non. Elles promènent une indolence insolente ou une insolence indolente. Enfin, les voilà parfaites. On ne sait vraiment plus où donner de la tête. Je me rappelle, les souvenirs se ramassent à l'appel. Oui, je me rappelle, comment s'appelait-elle donc ? C'est bête, je la revois, mais je ne peux pas là, mais bon, peut-être Yvonne au bois de Boulogne, au bord du lac, avec son petit chapeau bleu et son sac. Ou c'était cela son prénom, Yvonne ? Ou peut-être non, Susan alors, dans le bois de Meudon. Oui, Vincennes avec Irène. Oh, je ne sais plus, mais les femmes le dimanche sont les reines. Il y a des bois partout et cela ne me laisse pas de bois. Au bois, s'il fait beau, on fait deux dos sur l'herbette. C'est mieux que d'avoir l'air bête en faisant dodo. Mais s'il ne fait pas beau, ou s'il a plu, ce n'est pas mal non plus. On reste dans l'auto, bien au chaud. Et ma foi, dans les transports qui ne sont pas très communs, le dimanche, on a comme un transport de l'esprit et des sens. Ce jour-là, le corps des femmes est très conducteur du dimanche. Le dimanche, on s'habille et l'on se déshabille. On s'habille souvent bien pour pouvoir se déshabiller souvent très vite. Si la situation vous y invite. Le dimanche est le jour de la chair, pas celle des curés juchés pour faire leur sermon, non, de la bonne chair. Les pâtisseries y sont en fête, les charcutières ont de jolies têtes de cochon, bref, un joli port de tête, un sourire carnassier et admirable qui donne envie de passer très vite à table. Et puis, ce qui est bien dans le dimanche, c'est qu'on sait qu'il reviendra, oui. Les femmes, c'est inouï, on ne sait jamais ce qu'en 7 jours elles peuvent nous faire comme tour. Je me méfie d'elles. Le seul qui nous soit toujours fidèle, c'est le joli dimanche. 52 fois dans l'an, 52, oui, comme dans les jeux de cartes. Ce jour-là, ma carte, elle est toute blanche.
Oh là là, on croirait qu'il a joué le rôle de Guitry toute sa vie.
Si dimanche m'était compté.
Dimanche prochain, le 8 février, sera un joli dimanche aussi, puisque la ville de Boulogne-Billancourt fait son festival Ordre et Chaos avec les Papous pour invité du jour. Les Papous sans dessus dessous. Eh oui, Ordre et Chaos. Rejoignez-nous à la bibliothèque Marcel Landowski, c'est à 5 minutes à pied du métro Marcel Samba, pour un après-midi des Papous. À 16h, 1h30 de lecture, jeu des Papous avec Jean-Bernard Pouy, Dominique Muller, Patrick Beignet et Lucas Fournier dans la douceur cosy de cette bibliothèque. Une après-midi Papou suivie d'une rencontre dédicace autour de nos livres collectifs, à savoir l'anthologie, le dictionnaire et 36 facéties pour des Papous dans la tête. Et c'est à souligner, la bibliothèque Marcel Landowski de Boulogne-Billancourt est une des rares bibliothèques ouvertes le dimanche en France. On vous attend donc pour cet après-midi des Papous parmi les livres, les Papous sans dessus dessous. Dimanche prochain, 8 février à 16h, tous les renseignements sur notre page Facebook et à la page des Papous, vie du club sur franceculture.fr. Et si on s'intéressait aux personnages de fiction, comme ils savent nous séduire, comme nous tremblons à leur côté, comme nous soupirons, comme ils soupirent après leurs amours impossibles, et comme c'est bon de tout oublier du monde en les suivant dans leurs aventures. Seulement voilà, eux, ils ne sont jamais contents. Toujours ils râlent. Ils voudraient être quelqu'un d'autre, ne pas mourir sous un train, par exemple, ne pas être petit page, mais Cid. Jusqu'à ce brave samovar de Tchekhov dimanche dernier qui se rêvait tassaté chez Lewis Carroll, pas content les personnages. Alors il se rebelle et nous le font savoir. Prenez Jacques Abertrand par exemple. Il se prend pour qui Jacques aujourd'hui ?
Je suis le chevalier Henri de Lagardère.
Oh, ah. Si tu ne vas pas à Lagardère !
Lagardère ira à toi.
Oui. Et c'est vous ?
Et c'est moi.
Oh, moi, je suis fière. Moi, j'avais envie de vous rencontrer depuis toujours.
C'est le bossu.
C'est le bossu.
Ouais.
C'est le bossu. Et j'écris à Monsieur Paul Féval.
Ça va pas, alors.
Mon auteur.
Pas content.
Non. Monsieur, les écrivains et les feuilletonistes manquent singulièrement de courtoisie. On crée des personnages, on les lance dans des aventures rocambolesques et on les abandonne à leur sort. Je n'ignore pas que quelques-uns de vos confrères prétendent qu'au bout d'un moment, leurs personnages leur échappent et se mettent à vivre leur vie, pour se justifier sans doute d'un roman ou d'un feuilleton hâtivement rédigé. La réalité est tout autre. Nous sommes enfermés dans vos œuvres, monsieur. Condamnés à revivre continuellement les mêmes péripéties, à répéter les mêmes mots, chaque fois qu'un nouveau lecteur ouvre le livre auquel nous sommes enchaînés. Sans compter que certains lecteurs sadiques nous relisent. Vous imaginez la honte. Vous imaginez la honte, refaire les mêmes numéros, ne pas pouvoir varier d'une réplique. Alors qu'on pourrait penser parfois qu'il y aurait mieux à dire, qu'on pourrait ironiser davantage, je ne sais pas moi, montrer davantage d'humour ou de fantaisie, et moins de patience. Pourquoi attendre de si longues années avant de se venger de ce maudit duc de Gonzague ?
Je le demandais, oui.
Et d'abord, pourquoi avoir titré ce roman « Le Bossu » plutôt que « Les aventures extraordinaires et véridiques du chevalier de Lagardère ». M'avoir inventé un passé de baladin du genre Valentin le Désossé, j'aurais pu passer inaperçu d'une façon plus élégante. Ah, Jean Marais, dans un des nombreux films tirés de votre livre. « Touchez ma bosse, monseigneur !» Quelle horreur ! Il est vrai que vous n'avez pas écrit cette réplique. Je le sais parce que j'entends les lecteurs. Tu te souviens, chérie, Jean Marais, dans Le Bossu, touchez ma bosse, monseigneur. Eh bien, je ne la trouve pas dans le roman. Tu Tu as dû sauter une page, mon chéri. Et ce jeune prétentieux de duc de Nevers, beau, riche, dont les ancêtres auraient participé à quelques croisades, que je suis obligé de défendre et dont je dois sauver le nourrisson, ce qui me vaut de vivre pendant 15 ans une existence d'intermittent du spectacle, me déplaçant de province en province, qui plus est dans une vieille roulotte. Et ses copains spadassins dont vous m'affublez, qui n'arrêtent pas de jurer de blasphémer. Cocardas et passepoil. Pourquoi pas Riboulingue et Croquignol. Mordiou. Si ça se trouve, vous, vous êtes mort, vous avez fait relâche. Et moi, je continue à courir les mauvais chemins, à réparer les roues de charrette, à jouer de mauvaises comédies italiennes, à me battre en duel pour un oui ou pour un non. Et à m'occuper de cette môme qui a hérité du caractère altier de son père et qui n'en fait qu'à sa tête, Aurore de Nevers. Moi, j'étais amoureux d'Aurore de Quélus, la veuve de Nevers. Superbe femme, très digne, et pas le genre à faire des histoires. Et vous m'obligez à épouser sa fille, qui aurait pu être la mienne. Ce serait l'idée du régent, le duc d'Orléans, paraît-il, un drôle de coco aussi, celui-là. Et la différence d'âge. Vous n'avez pas pensé que lorsque j'aurai 100 ans, elle en aura à peine 80 ? C'est-à-dire que si j'en crois les statistiques sur l'augmentation de l'espérance de vie des femmes, elle sera carrément dans la fleur de l'âge. Alors qu'avec sa mère, nous aurions pu vieillir ensemble, comme Elsa et Aragon, ou comme ce vieux couple d'étrusques qui figure sur la couverture d'un livre d'art pas loin de moi. Et il y a pire. Dans cette librairie où je suis en pile, édition de poche, j'ai entendu une lectrice réclamer la suite. Votre fils aurait écrit La chevauchée de Lagardère et Le fils de Lagardère. Ah non, non. C'est pire que l'enfer de Dante, ce truc. Cette vie n'est pas une existence, comme le fait dire Henri Janson à Louis Jouvet dans Hôtel du Nord. La libraire est abonnée à Télérama. Mordiou ! Et je ne vous parle pas de votre fameuse botte secrète de Nevers. Toucher l'adversaire au front entre les sourcils. Engagé en tierce, coup droit retenu, paré, coup droit, remettre à fond, paré, prime et riposté, passer sur l'épée et aux yeux. La belle Laura Flessel, double championne olympique, plusieurs fois championne du monde à l'épée, nous feuilletait négligemment récemment pendant que les libraires lui cherchaient un bouquin de Derrida ou quelque chose comme ça. Tombée sur ce passage, elle a failli s'étrangler de rire. C'est très désagréable. Mordiou, monsieur, mordiou.
Ah oh bah oui, alors là, je comprends. Il a un des plus beaux rôles de l'histoire.
Mais oui, il est glamour, il est fascinant, ce personnage, et il râle, c'est incompréhensible.
Mais vous préférez Daniel Auteuil ou Jean Marais?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu Daniel
Joker,
Auteuil.
Joker. Ah, ouais. Il a écrit cette lettre au lieu de répondre à ses nombreuses admiratrices, dont moi, je lui ai déjà écrit 10 fois.
Bon, ça, c'est le problème d'Eva, évidemment. Elle laisse avec ses problèmes amoureux. Mais vous, Lucas Fournier, vous êtes un homme du genre à aimer les romans de Capé d'Épée.
Oui.
Vous êtes Paul Féval.
Je suis l'auteur, je suis Paul Féval.
Oh là là, depuis le temps qu'on attendait.
Ouais. Bon, je réponds à mon petit Henri.
Ben oui.
Mon petit Henri, mais qu'est-ce que je lis? Que tu te plains que ton papa t'a fait trop vite. Je serai un écrivateur précoce. Je ne sais pas quel divan tu as fréquenté pour avoir des idées pareilles derrière la tête, ou plutôt derrière la bosse. Un feuilleton, dis-tu, hâtivement rédigé. Mais oui, j'assume, j'en ai hâtivement rédigé 822 des feuilletons, avec autant de héros. Et toi, le seul qui ait survécu, le seul qui ait franchi 2 siècles, le seul qui ait résisté face aux Jedi et aux mangas, toi, le Lagardère éternel, tu te plains de ta condition? Tu veux que j'envoie ta lettre à Lucien Gobillard, mon héros oublié de Les Mystères de Nevers, ou au Chevalier de la Gravelle, le personnage du Secret du Château Vert? L'enfer, c'est les autres, c'est eux! C'est eux qu'ils vivent. Toi, tu es au firmament, tu es l'étoile, ils sont les vers de terre. Mais, puisque c'est ça, puisque tu es en désaveu de filiation, je vais te dire comment on fait les enfants. Comment je fais les enfants, les miens et toi en particulier. Je me marre déjà comme un bossu. Déjà, quand on feuilletonne, on n'a pas le temps de passer par des préliminaires. On prend du prêt-à-porter littéraire. Donc, j'ai pris Quasimodo à la sortie de Notre-Dame de Paris. Il y avait aussi un bébé sur les marches que Victor Hugo avait déposé là. Je l'ai récupéré. Plus la roulotte d'Esmeralda que j'ai prise. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, j'ai emprunté un peu de D'Artagnan à Dumas. J'y ai ajouté une goutte de Cid pour le duel final. Et pour la petite Aurore de Nevers, j'ai récupéré Mathilde Lamolle, qui avait déjà servi chez Stendhal. Et quant à sa maman, j'ai fait un mélange de Madame de Rênal et de Madame de Meursault. Voilà. Les héros de feuilleton naissent dans les feuilles de chou, mais sont conçus avec ce qui tombe sous la main de l'auteur, dont les phalanges s'usent à se frotter contre le papier à force de tracer des lignes. Mes lignes, qui sont ta ligne de vie, ont été sèches et nerveuses, et tu naquis de cet effort. J'ai bien bossé, tu sais, pour te réussir. Alors maintenant, cambre la tête, fier bossu, et tu seras un homme, mon fils, ton papa.
C'est magnifique.
Maintenant qu'on le voit bien, il y a un petit peu de Capitaine Fracasse aussi.
Voilà.
Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha, non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha, non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Prestai a un vecchio amico 100 lire, e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io son ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io son pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ognor com'è.
Et oui, io son pacifico, e c'est Vittorio De Sica qui le dit.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
Absolument, Jean-Bernard. Et maintenant, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pour les maniaques de la périphrase, ceux qui aiment parler par circonvolution, périphrase poétique ou subjectivement définitionnelle, périphrase métaphore, pour traduire le sens d'un mot par une image. Seulement voilà, si on abuse de la périphrase et si trois périphraseurs, dans l'ordre, Jacques Vallée, Jacques Jouy et Patrice Minet, trois périphraseurs donc, entruffent une certaine phrase à tour de rôle, en remplaçant trois substantifs chacun, la phrase ainsi gonflée parviendra-t-elle à conserver son sens initial? C'est ce que la quatrième joueuse, Dominique Muller, aujourd'hui, nous démontrera ou pas. On commence par écouter la phrase en jeu. Jacques Vallée, à vous de nous la faire découvrir.
Quand les casinos ont jeté leur dernière tyrolienne, la plage est triste en vérité.
C'est de qui, Jacques Jouy? Ce sont deux vers que vous devez connaître absolument.
Non.
Parce qu'ils figurent dans votre recueil de poèmes, poèmes de Paris.
Ah, mais c'est pas moi qui les ai écrits, j'ai lu. C'est une anthologie.
Ah, non, mais c'est quand même vous qui les avez choisis, non? Quand les casinos
oui,
ont jeté leur dernière tyrolienne, la plage est triste en vérité. C'est Jules Laforgue, balade de retour.
Ah, c'est Jules, mais oui.
Et je me suis dit, ça va faire plaisir à Jacques Jouy. Je choisis une phrase dans son livre de recueil de poèmes. Et patatras, il ne la reconnaît pas.
Il a un aigre pour écrire ses anthologies.
Je précise qu'il y a 200 pages dans cette anthologie.
Qui est pleine de poèmes magnifiques. Mais bon, bref, c'est du Jules Laforgue.
C'est très beau.
Quand les casinos ont jeté leur dernière tyrolienne, la plage est triste en vérité. Alors, je me suis un petit peu interrogée sur le sens de tyrolienne chez La Forgue, parce que la tyrolienne, ça peut être un filin que l'on tend entre deux montagnes et qui vous permet de zout,
de traverser. C'est un jeu pour enfants aussi.
Fossé, voilà. Alors, je ne sais pas comment ces tyroliennes interviennent dans les casinos chez La Forgue.
Il faut regarder dans le livre, je pense, c'est expliqué
non,
probablement.
Non, il n'y a pas de note en bas de page. Jouet. Bon, comment vous en êtes-vous sorti, Jacques Vallée? Est-ce que vous avez gardé les tyroliennes ou vous y avez touché?
J'ai gardé les tyroliennes, ouais. Elles me semblaient tellement belles.
Oui.
J'ai touché à ce qui restait, c'est-à-dire les casinos,
oui.
La plage et la vérité, en
oh,
vérité.
C'est beau. Oui, alors on écoute.
Et alors, pour les casinos, j'ai pensé aux roulettes, je les ai appelées des roues, et je les ai appelées stendhaliennes, parce que c'est le rouge et le noir.
Oh là là, donc oui, on peut connaître la périphrase complète.
Le club des roues stendhaliennes de hasard.
Tout s'explique.
Oh là là. Alors oui, Dominique
oui,
Muller.
J'ai eu un texte où Stendhal était très présent. Il marquait vraiment de sa grande ombre tout le texte.
Ah bon, parce qu'évidemment, entre vous et la phrase de Jules Laforgue... Oui.
Mais bah, on croirait du Stendhal, hein, la phrase.
Il y a Jacques Vallée, donc, qui a introduit Stendhal. Ensuite, il y a Jacques Jouet, qui a dû faire pire, j'imagine. Et puis Patrice Minet.
Oui, enfin, il reste un tout petit quelque chose de la
c'est
phrase
vrai.
De départ.
Ah, bah,
mais tout petit.
Il reste juste l'adjectif triste.
Alors, oh, plus oui. que ça. Oui. Il n'y a pas que de la tristesse dans
oui.
ce texte.
Alors ensuite, vous avez choisi, donc...
La plage, l'envers des pavés qui découvrent l'incessant va-et-vient des rêves.
Sous les pavés, la plage.
Oui.
Ouais. Ça, c'est bien.
Ah oui.
Ça, c'est très joli, même. Et très poétique. Hein,
on rejoint
La Forgue.
Et puis, en vérité, dont on ne peut cacher la nudité.
Ouais, c'est un petit peu la petite périphrase de base. Hein, c'est comme un OS de base.
oui, mais
la vérité ne méritait-elle pas mieux, quand même?
Non, parce que ça allait bien dans l'esprit de ce texte. Donc, je pense que la vérité, ça suffisait.
Alors, vous glissez vos périphrases dans les phrases de Jules Laforgue.
Quand les clubs de roues stendhaliennes de hasard ont jeté leur dernière tyrolienne, l'envers des pavés, le parcours, l'incessant va et vient des rêves, est triste de ne pouvoir cacher sa nudité.
Ah bah, vous voulez que je vous dise, moi je trouve ça très beau.
C'est même mieux que la phrase d'origine.
Ouais. Bah oui. Dans la prochaine anthologie, oui, Jacques Jouet, vous mettrez du Jacques Vallée, s'il vous plaît.
Vous voyez que la nudité venait bien.
Oui, oui, oui. Alors tout ça venait de Jules Laforgue, quand les casinos ont jeté leur dernière tyrolienne. La plage est triste en vérité. Donc Jacques Jouet, vous n'aviez pas connaissance de ce Laforgue de départ. Vous avez non. eu le texte de Jacques Vallée qui vous a semblé comment?
Eh bien, il m'a semblé très, très obscur à cause des roues stendhaliennes.
Ah, que... oui. Enfin, en même temps, votre travail ne consistait pas à comprendre, mais à
voilà.
complexifier un peu plus.
Je
ne
suis pas resté très longtemps dans... Je me suis dit, allons plutôt choisir trois substantifs.
Voilà.
J'ai choisi le mot hasard.
Oui.
Le hasard, c'est l'idée d'imprévisibilité cubique marquée de 1 à 6.
Ah, car c'est un coup de dé
jamais n'abolira.
Au hasard en arabe veut dire dé.
Bien sûr, et pour Minet qui vous suit, ça a été transparent, vous saviez. Vous
avez... Non, je suis en train de découvrir texte
oui.
très intéressant.
Ah oui. Oui. Après.
Pavé.
Oui.
C'est cubique aussi. Hein.
Et oui.
Et oui.
Et oui. Mais le pavé, c'est l'unité de mesure de l'insurrection.
Pas mal, oui.
Il y a des insurrections à 25 pavés, des insurrections
et on reste
à 800 pavés.
Non, non, il y a une sorte de goût émilio de l'insurrection. 3 pavés, 4 pavés.
Et ensuite.
Et enfin, la nudité finale.
Oui.
Que j'ai illustrée comme ça. La nature originelle quand elle prétend au prêt-à-porter.
Ouais. Oui, parce qu'on porte quand on est nu, c'est ça. Oui, quand on.
Bah oui, c'est le vêtement naturel, c'est le vêtement de la
nature. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne si vous glissez vos périphrases dans le texte de Jacques Vallée?
Quand les clubs de roues stendhaliennes, d'idées d'imprévisibilité cubique marquées de 1 à 6, ont jeté leur dernière tyrolienne,
ouais.
L'envers des unités de mesure de l'insurrection, que parcourt l'incessant va-et-vient des rêves, est triste de ne pouvoir cacher sa nature originelle quand elle prétend au prêt-à-porter.
Bah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah non.
Moi, je suis contente qu'on n'ait pas touché aux tyroliennes, parce que ça aurait posé une difficulté supplémentaire, je pense.
Oui, au point où on en était.
Bon, je rappelle quand même que tout ça vient d'une petite phrase très simple. Quand les casinos ont jeté leur dernière tyrolienne, la plage est triste en vérité. Patrice Minet, oui. Vous recevez ce texte de Jacques Jouet, décontracté, pas tout à fait. Hein.
Bon, quand je reçois un texte de Jacques Jouet, je suis toujours content. Voilà. Hein, voilà. Bon, après, oui. Je le lis.
Oui.
Et alors là, je suis perdu.
Notez ce que vous
dites. Qu'est-ce que vous en faites ?
Alors, d'abord, j'essaye de comprendre. Et assez rapidement, je renonce. Voilà. Et donc, je me dis, essayons de rendre ce texte intelligible pour des gens comme moi.
Oui.
C'est-à-dire, je pense d'abord à moi et aux gens qui me ressemblent. Ils sont très
oui,
nombreux.
Oui, vous et moi. Hein.
Voilà, ce sont des gens très simples,
oui.
Qui ne cherchent pas les difficultés et qui aiment bien qu'on les aide.
Je vois que tu n'as pas pensé à moi du tout.
Alors, comment t'as entendu ce qui précède ? Alors, je suis parti déjà de club. J'ai hésité sur le club de golf et sur le club genre club de bridge.
Oui.
Et j'ai pris le club de bridge. J'ai dit association sportive ou culturelle. En me disant que les gens qui me liraient, au moins, comprendraient quelque chose.
Oui, peut-être pas la bonne chose, mais quelque chose.
Non, mais la bonne chose ou la mauvaise, je ne savais pas laquelle
moi
c'était.
Moi, j'aime bien que vous n'ayez pas touché non plus aux roues stendhaliennes, parce que...
Oui, surtout pas. alors là... Mais parce que, en plus, l'image de la roue stendhalienne, oui. Elle est intéressante.
C'est trop beau, quoi.
Elle est obscure, mais elle est intéressante.
Non, ah bah, c'est du Jacques Vallée, hein.
Oui. Eh oui, oui, il faut bien le dire. Nous avons ensuite insurrection.
Ouais.
Donc, pareil, j'ai été extrêmement basique. Pas encore une révolution, mais plus déjà une manifestation, en tout état de cause, l'expression d'un fort mécontentement.
C'est bien. C'est un petit peu la périphrase pour les nuls que vous pratiquez.
Mais
oui. Moi, j'aime bien, parce que
ça
à ce moment du jeu, voilà. Il faut.
Et puis, la dernière est culturelle, rêve.
Oui.
Les rêves ne sont pas les sœurs de l'action,
non.
Chez Arthur Rimbaud.
Ah. Le voilà.
Ah,
je me demandais.
Rimbaud arrive.
Oui.
On a Stendhal, on va avoir Rimbaud. Et ça donne quoi alors ?
Alors, voilà, c'est beaucoup plus clair. Hein. Quand les associations sportives ou culturelles de roues stendhaliennes d'idées d'imprévisibilité cubique marquées de 1 à 6 ont jeté leur dernière tyrolienne, c'est quand même assez joli ça.
C'est très joli. Ouais.
L'envers des unités de mesure de ce qui n'est pas encore une révolution. Et d'ailleurs, je remarque que révolution, c'est aussi un terme mathématique.
Oui.
Mais qui n'est déjà plus une manifestation, qui est moins mathématique, en tout état de cause, l'expression d'un fort mécontentement. J'ai mis un point là, je commençais à fatiguer. Et que parcourt l'incessant va-et-vient de celles qui ne sont pas encore les sœurs de l'action chez Arthur Rimbaud. Bref,
oui.
Quelque chose, oui, j'ai dit bref, quelque chose,
oui.
Parce que je voulais, si vous voulez, soulager un peu le lecteur en lui disant ce qui précède est moins important que ce qui suit.
Ah bah, très bien.
Bref, ouais. Quelque chose est triste de ne pouvoir cacher sa nature originelle quand elle prétend au prêt-à-porter.
La fin reste un petit peu mystérieuse, hein, le prêt-à-porter.
Oui, parce que je n'y ai pas touché, ça, vous voyez.
Oui. Alors, Dominique Muller.
Oui.
Vous affrontez ce texte de Patrice Minet qui, il a raison, il nous l'a dit, est devenu un petit peu plus clair.
Oh, très nettement.
Hein ?
Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah, je n'ai eu qu'à le lire et hop là.
Hop.
Ah oui, oui.
Alors, isoler les périphrases, dénicher les mots qui sont cachés.
Alors, les associations sportives ou culturelles, de roues stendhaliennes d'idées, d'imprévisibilité cubique marquée de 1 à 6, pour moi, ce sont des fiascos. D'abord parce que Stendhal est dans les parages, et deuxièmement parce que association sportive culturelle, le dé qu'on jette, bon, enfin, ce mot-là, eh bien, ça fait qu'on perd au jeu. C'est là où le casino est très vaguement dans le coin, tout de
oui,
même.
Oui, ça c'est bien, moi, je trouve, hein, oui, Jacques Vallée.
Oui, c'est très
hein,
juste.
Parce que vous êtes concerné quand même. C'est oui, vous qui avez amené ces roues
stendhaliennes.
Merci,
les roues stendhaliennes.
Hein. Non, c'est bien, le fiasco.
Des jeux perdus,
bien.
Quoi.
Ouais,
voilà. Donc, quand les fiascos ont jeté leur dernière tyrolienne, j'ai raccourci ça par yodeler.
Ah oui, donc vous avez donné un autre sens aux tyroliennes, oui.
Oh bah c'est enfin,
un autre
hein,
sens,
ce sont des tyroliennes. Hein,
c'est peut-être le sens que donnait Jules Laforgue, d'ailleurs, hein, on ne sait pas.
Pour moi, yodeler, ça voulait dire hurler, vous voyez le fiasco qui vous hurle aux oreilles, vous voyez la chose.
Désagréable, oui.
Très, très. Alors, ensuite, préparez-vous, parce qu'il y a une énorme périphrase que j'ai traduite par une autre phrase, mais beaucoup plus courte. Alors, l'envers des unités de mesure de ce qui n'est pas encore une révolution, mais qui n'est déjà plus une manifestation. En tout état de cause, ça ne veut pas dire grand-chose, l'expression d'un fort mécontentement, et que parcourt l'incessant va-et-vient de celles qui ne sont pas les sœurs de l'action chez Arthur Rimbaud. Ah, le voilà. Donc, virgule, que les lettres du Scrabble ont valsé. Nous sommes toujours dans les jeux. C'est parce que Arthur Rimbaud, c'était naturellement les voyelles, et que là, il y a l'incessant va-et-vient. Donc, c'est la valse, pour moi, vous voyez, ainsi que le fort mécontentement, parce que quand quelque chose valse, on l'envoie balader d'une certaine manière. Je trouvais que c'était très clair.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Jouet, Jacques Vallée?
Oui, mais je trouve ça très clair. Juste maintenant, j'ai hâte de savoir la phrase complète.
En même temps, les voyelles de Rimbaud ne rapportent pas grand-chose au Scrabble, hein.
Justement, donc on est toujours du jeu qui rate.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Bref, j'ai gardé quelque chose est triste de ne pouvoir cacher sa nature originelle quand elle prétend au prêt-à-porter. J'ai traduit ça par être un veau. Parce que quand sa nature originelle prétend au prêt-à-porter, pour moi, c'est être comme tout le monde, être fondu dans la masse, etc. C'est manquer de ne pas chercher l'originalité, en tout cas.
Oui.
Ce qui donne donc une phrase assez brève, je dois dire. Quand les fiascos ont yodelé, que les lettres du Scrabble ont valsé, bref, il y a quelque chose de triste à être un veau.
Ah oui. Non, mais...
C'est joli.
C'est joli. Je ne sais pas s'il y a la poésie de la forgue.
C'est pas gay, mais c'est joli.
Quand les casinos jetaient leur dernière tyrolienne, la plage est triste en vérité. Il y avait la tristesse chez la forgue.
C'est assez voisin.
Et puis, on jetait leur dernière tyrolienne.
La tonalité est assez proche.
C'est lourd.
Oui, c'est le petit matin, quoi.
Le petit matin blême. Exactement. On enlève ses chaussures. On a ses chaussures à la main.
On a tout perdu.
J'ai passé encore une nuit.
C'est comme à Ostende.
Je ne le referai plus, exactement. Mais là, je mettrai ça plutôt au Tyrol, parce que...
Oui.
Mais alors, les casinos au Tyrol...
Redites-nous ça.
Quand les fiascos ont yodelé, que les lettres du Scrabble ont valsé. Bref, il y a quelque chose de triste à être un veau.
Moi, je trouve c'est assez poétique.
C'est très, très bien.
C'est la mauvaise conscience du joueur. C'est du Dostoïevski, en quelque sorte.
Exactement.
Bien que je ne lui ai pas attribué.
Vous l'attribuez à qui ?
À Paul Éluard. Quand il est au sanatorium de Davos et qu'il écrit à Gala.
Ah bon ?
Oui.
Il y a une petite explication ? Non.
Non, je le vois très bien aller au casino.
C'est le Scrabble, en fait.
Liberté. Je n'ai pas le B.
Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Ils ont changé ma chanson.
Look what they done to my brain, man. Look what they done. My brain.
Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane.
Look what they done to my son.
Ils ont tradé ma chanson. Ils ont trahi ma chanson.
Ce n'était rien qu'une chanson.
Mais c'était ma chanson, moi. Ils ont changé ma chanson.
Oh,
ma chanson. Et c'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas beau, moi. Ils ont changé ma chanson.
Arnaud et Stéphane Escher, vous rêvez de parler en public sur tous les sujets, quelles que soient les circonstances, et l'occasion qui vous est donnée de prononcer un discours ou plus modestement de porter un toast, de remercier, alors vous devez vous entraîner. Et pour ça, un conseil, suivez les classes de rhétorique des Papous dans la tête sur France Culture. Patrice Caumont s'improvise orateur. Il endosse un rôle qu'il a choisi. Et c'est Dominique Muller qui improvisera la réponse à son discours. Présentez-vous d'abord, Patrice Caumont.
Je m'appelle Maya Pollen, je suis cadre mobile de Ruche, chez Dacacia, filiale low-cost d'Honeywell, les rois du miel. Et en tant que délégué syndical, je m'adresse au personnel du site Honfleur, sur le parking de cette ruche aux cadences infernales, devant les gardiennes qui filtrent l'entrée des jeunes non-grévistes.
Donc nous sommes tous des travailleuses, c'est
absolument.
Ça? Ah. Même Lucas et Jacques Vallée, qui lui
ça m'étonne
qui
beaucoup.
Lui dit.
Travailleuses, travailleuses, camarades ouvrières, jamais notre situation n'a été aussi précaire et nous risquons désormais de perdre non seulement nos acquis, mais aussi à court terme, nos emplois. Jamais les conditions du travail n'ont été aussi pénibles. Jamais les journées de labeur ne furent aussi longues. Et pourtant, là-haut, ça râle et ça menace au prétexte que notre production baisse. L'acheminement des matières premières prend du retard et toute la chaîne en subit les conséquences. Et l'on voudrait nous faire augmenter les cadences ? Dans les ateliers de façonnage, les cireuses tournent à fond. Ces ouvrières spécialisées font leur boulot, une tâche de précision géométrique et qui ne saurait être bâclée au risque d'effondrer toute la production. Le travail s'accomplit sans aération. On peine à respirer et l'on subit cette épouvantable chaleur due à la réduction draconienne et lacédémonienne des effectifs de ventileuses à l'entrée de la ruche. Ces coupes drastiques de personnel qualifié, et ceci dit en passant, surtout qualifié aujourd'hui de feignasses par la direction, toutes ces coupes, camarades, débordent le vase. Si l'absentéisme atteint au record, c'est tout simplement parce qu'on nous empoisonne. L'épuisement dû aux déchets toxiques que transportent nos butineuses et qui nous contaminent toutes et que là-haut, on ne sait pas traiter. Oh, combien de butineuses, combien d'appels sereines ne sont pas revenus de leurs courses lointaines, faute aux pesticides suicidaires. Seul commentaire de la direction, bien grosse butineuse, mais bien maigre butin. Là-haut, ils poussent tout de même le bouchon de cire un peu loin dans nos oreilles. Et pendant ce temps-là, le capital fait son miel sur notre dos. Le ministre de l'apiculture nous enfume et nous endort comme l'apiculteur qui nous exploite. Ça baigne dans l'hydromel, là-haut. C'est l'Olympe. Depuis toujours, on se crève pour eux. Mais aujourd'hui, on crève tout court. Si ça continue, on va guillotiner la reine, ou pour le moins, lui passer une bonne dégelée royale. Travailleuse, travailleuse, je le jure par syndic, patron de l'abeille syndiquée, et par tous les saints de l'essaim, nous ne les laissons pas nous abattre. Même les meilleurs d'entre nous sont touchés. Notre camarade Albertine, médaillée du pollen, éclaireuse des ressources mellifères, et qui comptait des heures de vol à son actif, a disparu à son tour des écrans radars. Albertine, c'était le guide-mère de notre escadrille, l'as des as et un as de cœur. Elle a été abattue dans un duel inégal, vu le moteur des frelons, par un baron noir et jaune de cette lutte à feu redoutable. Camarades, nous ne pouvons, affaiblis par la crise des pesticides, ayant perdu tous nos repères en acceptant, par vote, la délocalisation de nos ruches, non. Nous ne pouvons affronter la déloyale concurrence asiatique, ces prédateurs qui tuent nos emplois et bientôt nos camarades. Nous demandons au ministère de l'Apiculture l'arrêt immédiat de cette nuée d'émigrés clandestins venus de Chine qui nous pique tout et toutes. Sans une mobilisation de tous et surtout de vous toutes, il n'y aura bientôt plus de miel français. Et pendant que nous, on crève, la reine ne songe qu'à se faire refaire les seins. Alors si la grève est inefficace, nous piquerons. Travailleuses, travailleuses, contre la fin du miel et pour le contrôle aux frontières du frelon asiatique, contre tous les pesticides sournois et pour une ruche qui ne soit pas qu'aux riches,
ne pratiquez plus la politique de l'autre ruche. Rejoignez-nous, camarades ouvrières.
Oui, oui, oui. Bravo. Ah, je crois, cher délégué, qu'une petite jeune femme veut prendre la parole. Oui, Dominique Muller,
oui,
qui êtes-vous?
Oui, je suis Annie Dromel.
Ah oui.
Bonjour, amies travailleuses et ouvrières, public de haut vol. Je suis donc Annie Dromel, stagiaire aux ressources sérumaines d'Onewell, notre ruche mère. C'est au nom de Mayflower, la directrice, que je viens répondre à vos inquiétudes. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est mon baptême du casse-pipe et je suis très émue. Excusez son absence, mais elle a le bourdon. Et vous savez que l'avenir de l'entreprise dépend de cette rencontre féconde. Je commence par le message envoyé de Suède par le président IKEA Nectar. Ne vous trompez pas de lutte d'acacia, ne confondez pas pesticides et fratricides, miel et fiel. Nous sommes dans le même gâteau. Ensemble, il faut butiner, non se mutiner. Certaines cruches pensent que la direction, le patronat, le capital n'en ont rien à cirer de la condition ouvrière. Mais ils vous font une fleur en vous maintenant sur le site, ne l'oubliez pas. Ne demandez pas la lune, de miel, d'acacia fera son beurre. Oui, ça sent le sapin, le parfum de votre sueur. Vous prélassez, ce n'est pas demain l'abeille. Que chacune...
Elle est mignonne, hein, c'est sûrement une stagiaire, mais elle est très bien quand même, elle a du vocabulaire.
Elle est intelligente, hein.
Ouais, ouais.
Que chacune ajoute son alvéole à l'édifice, prenne le frelon par les cornes et se casse le tronc pour la récolte. Faites de ces mots succincts le suc de l'essaim, nectar. Voilà. Mayflower me charge de développer les points de suture, de structure, pardon. La concurrence d'abord, la gelée à la loyale exige une veille zélée. Soyez fine mouche, veillez nuit et jour, organisez des vols d'alerte contre les frelons, les aspersions, les contrefaçons. Pétition, non. Se remuer le croupion, oui. Contre le cartel asiatique, le miel aromatique. Contre leur peau trop lisse, le propolis. Pour que la production colle, relance rime avec cadence. Vous êtes chez Dacacia, pas cousu d'or sur le manteau de Napoléon. Celle qui se pique la ruche pour tenir se brûle les ailes. C'est le triste sort d'Albertine, abattue en vol après avoir butiné du génépi en fleurs. D'autres jouent des mandibules sur le pavot, planés et néfastes au planning. Ce que des emmielleuses appellent intoxication, empoisonnement, pesticides suicidaires, se nomme à Honfleur jus de pomme. Fini l'apicole au verger. Pas question de nourrir un serpent dans son essaim. Au lieu de regarder les mouches voler, mettez-vous en frais la fleur au fusil. Mieux vaut dard que chômer. L'essaim tombe de haut quand il gobe le refrain syndical des riches contre la ruche. Ce sucré est un devoir pour tous. L'union fait les rayons, l'osmose fait le glucose. Et ce n'est pas en critiquant les rennes que nous y parviendrons. Si le rapport de rennes est conforme au ratio de rentabilité, l'ensemble du site en est loin. Honfleur est un vieux bassin. On a quitté Vierzon, on a quitté Vesoul, et Honfleur risque de ne pas finir en chanson. Les brêles, les sottes qui parmi vous se prennent pour la Rosetta des frères d'Ardenne feraient bien de se méfier d'une victoire à la Pyruche qui conduirait à la délocalisation. Veulent-elles être coupées au montage, au façonnage, à l'assemblage? Dacacia a besoin d'un moteur et c'est votre énergie. Renoncez à une grève stérile comme à une grève des ailes. Ne vous laissez pas contaminer par le virus de la contestation. Retroussez-vous les seins, mettez les bouchées doubles, vos résultats feront le buzz. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir aiguillonné.
C'est très bien. Bravo. Bravo, mademoiselle.
Oui.
Bravo, mademoiselle.
Vous n'êtes pas un peu jaloux, Patrice Comon, parce que vous en aviez fait beaucoup. Des jokes sur les abeilles, mais c'est Dominique Muller qui a fait la victoire à la Pyruche, qui est magnifique, non?
Magnifique, mais Timéo Stagiero, c'est Donia Ferrantes. Hein,
mais oui. Est-ce qu'ils en ont oublié une, Lucas Fournier?
Oui,
laquelle?
C'est une si jolie petite poupée ruche.
Ah!
Naughty Little Flea par Sir Alice Girl. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre, une page de Publipapoucité et la textée de Lucas Fournier pour Jean-Bernard Pouy et Jacques Vallée. C'est une pub, mais pas vraiment. Culturelle décalée, c'est une Publipapoucité. Et celui qui l'a imaginé, c'est Patrice Caumont. Il sait s'entourer, Patrice. Avec lui, Dominique Muller, Hervé Le Tellier, Jeanne Carillon et Gabriel Godard qui chante et joue du piano assise.
Oh, mais dis donc, Fleurette, ça sent rudement bon chez toi. C'est fou, cette sensation de fraîcheur, ce parfum de sous-bois, de promenade dans les fougères humides.
C'est mon secret.
Oh, mais c'est pas croyable, ce souffle d'embrun dans ton living, ce souvenir de marche sur une digue océane, dans ton couloir et même dans ta cuisine, ce mélange d'effluves de jasmin romain après l'averse et d'oranger sévillant en fleurs.
C'est mon secret.
Écoute, ta maison, c'est un jardin. On cherche le muguet ou la jacinthe, l'œillet ou les roses anciennes qui exhalent leur chant d'ivresse. Allez, Fleurette, dis-moi, quel est ton secret?
Mais non, Marguerite, ce n'est pas mon secret. C'est mon diffuseur Reseda, le nouveau parfum d'ambiance de Derrida. Derrida, avec un D comme Dalida.
Commode et pratique, pas plus grand qu'un livre, le diffuseur d'ambiance Derrida passera inaperçu sur le rayon de votre bibliothèque, mais transformera par son essence votre existence et même en profondeur. Des rideaux au guéridon, c'est Derrida qui sent bon.
Il diffuse en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. C'est sûr qu'il sait faire dans le genre éther. Et c'est une vie sans mystère qui vaut bien des commentaires pendant des pages entières. Faut qu'il réitère, mais c'est la seule odeur de fleurs, sa pensée bien étalée, son discours annoté pour rire où il n'y avait pas de place pour se marrer. Et voilà Derrida en somme. parce que la parole est bonne. C'est toujours à penser qu'elle donne. Y a pas de mystère.
À chaque jour sa page, à chaque feuille son chèvrefeuille. La dissémination du Derrida est exceptionnelle. Elle donne du sens à vos sens et déconstruit vos préjugés. Vous allez sentir et ressentir ce bouquet de pensées à l'état pur.
De façon lente et imperceptible, le Derrida dissémine ses essences et donne du sens même à l'absence. Sa fragrance fait sa différence. Embaumé sera votre logis par la grammatologie.
Alors vous aussi, mettez-vous au parfum. Plus qu'une huile essentielle, Derrida, c'est l'essentiel bien huilé.
Il diffuse en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. C'est sûr qu'il sait faire. C'est sûr qu'il sait faire.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, la textée, c'est une dictée mais pas comme les autres, pas scolaire, où l'on se moque bien du respect de l'orthographe, c'est pas l'objet de l'exercice. Le plaisir, c'est de créer un texte à partir de consignes données par le meneur de jeu. Il a choisi un poème, une chanson, un bout de prose, ce qu'il voulait, et nous le restitue à sa façon avec ses mots à lui. Et c'est ainsi que Jean-Bernard Pouy et Jacques Vallée, ceux qui se soumettent à la textée, écriront en interprétant comme ils le peuvent les injonctions de Lucas Fournier, texteur du jour. Et Lucas, il parlera par métaphore, leur suggérera des figures grammaticales ou verbales, les guidera, mais sans vraiment les aider à eux de se dépatouiller. Si la textée réussit, leurs textes auront une certaine parenté entre eux et avec l'original. Bien, Lucas Fournier, vous avez préparé une bonne feuille de route pour Jacques Vallée, Jean-Bernard Pouy, avec donc un certain nombre d'injonctions qu'ils tenteront de respecter. Ils vont écouter, comme nous. Ils auront peut-être des questions à poser parce que les feuilles de route sont énigmatiques. On vous écoute.
Alors, j'ai numéroté mes sommations de 1 à 8.
Ouais.
Ah, maintenant, c'est des sommations. Avant, c'était des injonctions.
Oui.
Maintenant, c'est...
J'aime autant la sommation.
Ça devient de plus en plus grave.
Oui.
Et violent, même, vous l'aurez remarqué.
Eh bien, vous allez l'entendre. 1. On vous exprime d'un coup en quelques mots, d'ailleurs sans mauvais goût, des mots ni triviaux ni idiots, une forme d'approbation, sans esprit de contestation. Et vous, de votre côté, tout uniment, vous exprimez des réserves extrêmes, pour ne pas dire carrément, votre hostilité même.
Donc ça veut dire deux lignes.
Mais c'est un dialogue.
Ça ressemble,
quoi, une ligne, un poème, un...
Oui,
quoi,
c'est quoi
Non mais puis quoi encore? Non,
mais
non,
mais ça... c'est un poème, ça va
c'est
rimer.
Concis,
donc il faut
que ça c'est tonique.
Apparemment, ça a l'air binaire. Il y en a un qui dit quelque chose et l'autre qui répond. On peut leur dire ça au moins.
On peut dire que c'est une dialectique.
Voilà. Ensuite...
Deux, mais bizarrement en même temps, on vous fait part très clairement du souhait que le truc s'arrête. En ce qui vous concerne, vous, vous ne souhaitez pas abandonner, non. Vous affirmez qu'il faut aller de l'avant pour de bon, c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Vous le redites. Et vous le re-redites qu'il faut continuer.
Ça fait 4 phrases, non? 4 lignes. Non, mais aidez-les, regardez leur regard.
Ça fait 4 petites lignes, oui.
Ah, oui. Voilà. Il faut le savoir. C'est ça la texte. Au début, il faut spécifier le cadre, le nombre et tout. Et à l'intérieur, tout est permis.
Oui, mais ça, c'est la texte un peu scolaire aussi. On n'est pas obligé de spécifier le béaba. Oui, Eval, mais si vous n'allez pas jouer sur l'exercice, non. Mais vous pouvez néanmoins vous exprimer.
Mais c'est que je suis morte de peur, même sans y participer. S'il y en a 8 comme ça.
Oui, il y en a 8 comme ça.
Oui.
3. Alors on vous dit maintenant des choses vraiment définitives. Vous n'en tirez pas de conclusion hâtive, vous qui êtes dans l'empathie, au contraire. Vous répondez avec bonhomie, avec bienveillance, avec sympathie.
Bonjour,
pas très
par
compliqué
exemple.
Quand même.
Non.
Par exemple.
Au revoir, par exemple.
Ben voilà, oui, bonhomme, bienveillant, sympathique.
Fermez la porte derrière vous, Jean-Bernard Pouy.
4. Et là, vous exprimez quand même votre perplexité existentielle et dialectique, parce qu'il y a un problème. Avec cette chose définitive qu'on vous lance incompréhensiblement, parce que vous, vous êtes toujours dans la bienveillance. Et c'est tellement interpellant que vous recommencez le questionnement interloqué et la bienveillance.
Il y a interpellant, interloqué.
Il y a une grosse richesse de vocabulaire chez Lucas Fournier.
C'est un exercice de style que tu as fait.
De mon côté aussi, oui, mais il ne vaudra pas le vôtre. Alors, 5. Du coup, c'est vous qui attaquez sec pour claquer le bec, en prenant de la grandeur, de la hauteur. On vous répond avec petitesse, avec bassesse. 6. Et même mieux, ça interpelle. C'est à vous qu'on demande des explications. C'est à vous qu'on pose la question. L'ennui, c'est que vous, vous ne savez pas répondre, mais pas du tout. Et vous l'avouez. Alors on vous dit encore des choses définitives, et vous non. Au contraire, vous rétorquez encore dans l'empathie.
Il y en a un qui est gentil, un qui est désagréable. C'est un peu ça l'idée.
Vous avez tout compris.
Je suis fine. Ah, oui.
Une question définitive.
C'est deux carmélites qui discutent. Voilà, c'est ça, vous avez presque trouvé. 7. Dans ce capharnaüm de contradictions, pas étonnant que deux interjections aux vertus synthétiques s'affrontent alors en deux rounds. C'est la première, la vôtre, qui gagne. 2-0. Ah ben ça, c'était une interjection, vous voyez.
Oui. Hein,
voilà. Est-ce que je peux sortir?
Non.
8. Comme cette histoire est répétitive, vous reprenez votre perplexité existentielle. Vous obtiendrez, hélas ou pas, la même réponse. Et refaites le match des interjections avec le même résultat.
Eh oh.
Oui.
Oui, par exemple.
Par exemple.
Ou interjection, déjection, merde. Non.
Ah, ben ça, là, on est.
On vous laisse faire.
Alors, on n'est pas aussi vulgaire que toi, Eva.
Écoutez, Jacques Vallée n'a pas posé de questions. Il est interloqué, pétrifié. Oui. Mais...
Non, non, je voudrais savoir si c'est dans le cadre d'un dialogue, de théâtre ou un poème.
Est-ce qu'on peut lui dire, Lucas Fournier? Parce qu'ils ont l'air un peu perdus.
J'aurais posé la même question.
Ah bon.
C'est une seule personne qui s'exprime.
C'est essentiel. Donc, c'est des trucs de conscience.
C'est lui et son double, en quelque sorte, c'est ça?
C'est lui et un autre ou les autres, oui.
Voilà, bon, il n'en dira pas plus, à mon avis.
Si tu peux nous dire les deux premières phrases, par exemple.
Allez, au travail. Jean-Bernard Pouy, Jacques Vallée, cette textée s'est bien passée?
Non.
Et pour vous non plus, Jacques Vallée?
Je ne réponds pas.
Ah, vous préférez le jugement de Dieu, c'est oui. Ça? Alors, écoutez, on va reprendre les injonctions qu'il avait appelées sommation, Lucas Fournier, oui, ce qui était très fort.
Oui, c'est ça
terme.
Un peu qui m'a gêné, moi.
Une à une, Lucas Fournier, on va voir ce que ça donne pour vos camarades. Alors, première.
On vous exprime d'un coup en quelques mots, d'ailleurs, sans mauvais goût, des mots ni triviaux ni idiots, une forme d'approbation, sans esprit de contestation. Et vous, de votre côté, tout uniment, vous exprimez des réserves extrêmes, pour ne pas dire carrément votre hostilité même.
Moi, j'ai l'impression que ça a l'air très compliqué pour masquer quelque chose de très simple, non? C'est pas votre idée?
Pour moi, c'est resté très compliqué. Alors, jusqu'au bout. Hein.
Ça donne quoi? Vous avez écrit quoi en lisant ce texte de Lucas Fournier?
J'ai écrit un texte atrocement triste.
Ah bon?
Oui.
Ah.
Merci, Eva. Mon ami, voilà, c'est fini. C'est le moment. Il faut partir. Vous résistez, c'est bien normal. C'est la vie, si j'ose dire.
Oh, c'est pas mal, hein. C'est intéressant, en tout cas. Il y a un petit point de jonction avec votre texte.
Il est petit, hein.
Il est tout petit. Enfin, on n'est pas dans la grande joie, effectivement, mais non. L'a dit. Jacques Vallée, avec vous, on est ailleurs.
Moi, c'est un débat intérieur. C'est moi contre moi. Je réfléchis sur un problème. Je me suis dit, tu devrais laisser tomber, c'est pas pour toi. Mais dans le fond, non, pas d'accord, j'y tiens.
Ah, c'est bien, il y a de l'espoir là.
Oui, oui,
ah,
oui.
Il y a quelque chose, hein.
On n'a pas le pistolet sur la tempe avec vous, Jacques Vallée. Bon, on comprend qu'on est très loin du texte original que vous avez
avec
voulu
Jacques,
texter.
Avec Jacques, beaucoup moins avec Jacques.
Très bien. Alors ensuite...
Bizarrement, en même temps, on vous fait part très clairement du souhait que le truc s'arrête. En ce qui vous concerne, vous, vous ne souhaitez pas abandonner. Non, vous affirmez qu'il faut aller de l'avant pour de bon. C'est tout. Enfin, non, ce n'est pas tout. Parce que vous le redites. Et même vous le re-redites qu'il faut continuer.
Bon alors... Deux fois la même chose, à peu près, hein. Jean-Bernard Pouille.
Oui, je continue dans le drame.
Oui.
C'est fini.
Oui.
Terminé. Encore un peu, encore une journée, me dites-vous. À quoi bon? Encore une heure? À quoi bon? Encore une minute? À quoi bon?
C'est la dernière cigarette du condamné, en quelque sorte. Oui. Jacques Vallée, on retrouve de l'espoir avec vous, oui. Non?
D'un autre côté... Au point où nous en sommes, ça devrait cesser un jour ou l'autre. Mais non, j'y tiens. Je ne veux pas la laisser. Non, je ne veux pas, je ne veux pas.
C'est qui, là? mystère, mystère. On est toujours un peu proche de Jacques Vallée et très éloigné de Jean-Bernard.
Mais non, Jean-Bernard a compris l'épaisseur du texte, oui.
Ah bon?
L'épaisseur. Pour moi, c'est pas épais, c'est carrément...
Après...
Béton.
Alors, on vous dit maintenant des choses vraiment définitives, et vous n'en tirez pas de conclusion hâtive. Vous qui êtes dans l'empathie, au contraire, vous répondez avec bonhomie, avec bienveillance, avec sympathie.
Moi, ça, il a toujours un ton bonhomme, Jean-Bernard
Pouille. Oui, non, alors, pas aujourd'hui. Hein. Justement, c'est la vie, c'est justement ça la vie, dites-vous. La vie, oui, mais pas la vie.
Ah non, mais c'est un sujet de dissertation de philo, en plus.
Oui.
Hein.
Chez Borgnol, ouais.
Bon, ça s'arrange pas, hein, côté Pouille. Jacques Vallée, je veux dire, ça s'arrange pas dans la noirceur.
Oui. Hein,
Jacques Vallée.
C'est vrai qu'on ne cesse de se quereller, c'est intenable. Faut-il pour ça se séparer? Je l'admire tant, sa beauté, sa tendresse, son intelligence.
Ah, c'est une femme. Oui. Apparemment, oui. Alors, proximité, pas proximité, Lucas Fournier. Ben,
Jacques est dans le vrai.
Ah, mais il est souvent
comme souvent dans le vrai.
On en est à la quatrième, oui. C'est
et
ça.
Et là, vous exprimez quand même votre perplexité.
Mmh.
Hein, ça. Et sur cette question existentielle et dialectique, parce qu'il y a un problème avec cette chose définitive qu'on vous lance, incompréhensiblement. Parce que vous, vous êtes toujours dans la bienveillance. Et c'est tellement interpellant que vous recommencez ce questionnement interloqué et la bienveillance.
Alors, Jean-Bernard Pouille.
Vous préférez me demander à vivre plus, à vivre mieux. Mais pourquoi voulez-vous tant vivre? Hein? Pourquoi voulez-vous tant vivre?
Oh là là là.
Oh là là.
Bon, c'est dommage, j'en ai raté la Toussaint, mais ça aurait été parfait. Jacques Vallée.
Mon vieux, il va falloir quand même te décider. Ta vie en dépend. Mais elle ne veut pas entendre parler de séparation. Puis-je lui imposer? Non, ce serait lui faire trop de peine.
Ah, il y a un petit cœur charmant qui bat dans la poitrine de Jacques Vallée.
Bienveillant.
Bienveillant, bienveillant.
Du coup, c'est vous qui attaquez sec pour claquer le bec, en prenant de la grandeur, de la hauteur, et on vous répond avec bassesse, avec petitesse.
Jean-Bernard Pouille.
Ce n'est pas la peine d'agiter votre faux et vos osselets, hurlez-vous. Vous ne vivez plus, vous n'avez jamais vécu. Votre vie, ce n'est pas la vie. Vous avez raison, ce n'est pas la vie.
Il y a le côté quand même redite hein, chez Jean-Bernard Pouille.
C'est un mélange de Shakespeare bien. Et d'Alain Barrière.
Ouais. Digérez ce que vous lui aviez dit, oui. Jacques Vallée.
Mais il y a beaucoup de redites hein, dans ce qu'il a proposé.
Oui, bien sûr.
Il y en a.
T'as un côté obsessionnel.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis, les contrariétés du quotidien ne comptent pas. Après tout, c'est la femme de ma vie. La femme de ta vie, mais quelle emmerdeuse.
Oui, ça arrive. Hein. On est toujours éloigné, proche, on est
pas,
ailleurs.
Je ne sais absolument pas où on est.
D'accord.
Mais on y est.
Bah avec Jean-Bernard Pouille, on est tout près du cimetière, oui. Hein, quand même.
On est dans le cimetière, là, ouais.
Et même mieux, ça interpelle. Hein. C'est à vous qu'on demande des explications. C'est à vous qu'on pose la question. L'ennui, c'est que vous, vous ne savez pas répondre, mais pas du tout, et vous l'avouez. Alors, on vous dit encore des choses définitives. Et vous, non, au contraire.
Jean-Bernard.
Vous répondez dans l'empathie.
Oui.
N'insistez pas. La mort, c'est naturel, même si ça ne l'est pas. Tout ça, quand même, devient pénible.
Ah, oui, ça c'est clair. Dites, hein. Oui. Jacques Vallée, alors vous la gardez, la femme de votre vie?
Tu n'en as pas marre, ça c'est des questionnements. Hein. Tu n'en as pas marre de toujours devoir t'expliquer, t'excuser, te soumettre. Mais je ne sais que lui dire. Il se peut que je gâche ma vie, mais moi je l'aime.
C'est un bel hymne à l'amour, quand
je
même.
Je me demande si Jean-Bernard n'est pas la femme de Jacques Vallée dans cette histoire.
En train de mourir, oui. pas très joyeux.
Alors, dans ce capharnaüm de contradictions, pas étonnant que deux interjections aux vertus synthétiques s'affrontent alors en deux rounds. C'est la première, la vôtre, qui gagne par 2-0.
Jean-Bernard.
Jamais, me rétorquez-vous. Idiot, avec votre jamais, vous me répondez piteusement.
Ah, il y a de l'action subitement.
Oui, hein, vers la fin.
Ouais. Ça s'annule.
C'est ce qu'on appelle les sursauts.
Il
juste
se rebelle,
avant.
Il ne veut pas, il ne veut pas. Jacques Vallée.
Mon vieux, laisse tomber. Ah, fous-moi la paix. Réfléchis. Ah, zut.
Ah, ça, c'est bien. Hein. Vous avez eu le même genre d'inspiration pour le côté dynamique de la fin. Oui.
On se sent beaucoup avec Jacques Vallée.
Ben, sûrement, oui. Je ne sais pas si c'est aussi dynamique dans le texte original, Lucas.
Un peu moins.
Un peu moins.
Comme cette histoire est répétitive, vous reprenez votre perplexité existentielle et vous obtiendrez hélas ou pas la même réponse et refaites le match des interjections avec le même résultat.
Alors ?
Dehors, saleté, jamais. Quoi ? Idiot, jamais.
Oui ?
Jacques Vallée.
Mais c'est vrai que ce serait plus simple de laisser tomber, mais je ne peux pas. Je l'aime. Ah zut, zut et zut.
Ah oui, quand même, ça l'agace. Est-ce qu'on écouterait leur texte en entier sans les interrompre,
ah,
Eva?
Oui, absolument.
On a envie. Alors Jean-Bernard Pouy, cette grande page de désespoir.
Oui, prenez un cachet avant de... Bon. Mon ami, voilà, c'est fini. C'est le moment. Il faut partir. Vous résistez, c'est bien normal. C'est la vie, si j'ose dire. C'est fini. Terminé. Encore un peu, encore une journée, me dites-vous. À quoi bon? Encore une heure? À quoi bon? Encore une minute? À quoi bon? Justement, c'est la vie. C'est justement ça, la vie. La vie, dites-vous, mais pas la vie. Vous préférez me demander à vivre plus, à vivre mieux. Mais pourquoi voulez-vous tant vivre? Pourquoi voulez-vous tant vivre? Ce n'est pas la peine d'agiter votre faux et vos osselets, hurlez-vous. Vous ne vivez plus. Vous n'avez jamais vécu. Votre vie, ce n'est pas la vie. Vous avez raison, ce n'est que la vie. N'insistez pas, la mort, c'est naturel, même si ça ne l'est pas. Tout devient pénible, hein. Jamais, me rétorquez-vous. Idiot, avec votre jamais, vous me répondez piteusement. Dehors, saleté, jamais. Quoi ? Idiot, jamais.
Donc il ne meurt pas.
Et il résiste, en tout cas.
Il résiste. Hein.
En tout cas, le cerveau vit 3 minutes de plus que le cœur. Là, c'est le contraire.
Oui,
c'est le cœur qui résiste.
Et les cheveux poussent 3 ans après. Oui.
Et les ongles.
Les ongles aussi.
Bon, pas trop de détails, quand même. Jacques Vallée, on écoute votre page d'amour.
Je me suis dit, tu devrais laisser tomber, ce n'est pas pour toi. Mais dans le fond, non, pas d'accord, j'y tiens. D'un autre côté, au point où nous en sommes, ça devrait cesser un jour ou l'autre. Mais non, j'y tiens, je ne peux pas la laisser. Non, je ne veux pas. C'est vrai qu'on ne cesse de se quereller, c'est intenable. Faut-il pour ça se séparer? Je l'admire tant, sa beauté, sa tendresse, son intelligence. Mon vieux, il va falloir quand même te décider. Ta vie en dépend. Mais elle ne veut pas entendre parler de séparation. Puis-je lui imposer? Non, ce serait lui faire trop de peine. Et puis, les contrariétés du quotidien ne comptent pas. Après tout, c'est la femme de ma vie. La femme de ta vie, mais quelle emmerdeuse. Tu n'en as pas marre de toujours devoir t'expliquer, t'excuser, te soumettre? Mais je ne sais que lui dire. Il se peut que je gâche ma vie, mais moi je l'aime. Mon vieux, laisse tomber. Ah, fous-moi la paix. Réfléchis. Ah, zut. C'est vrai que ce serait plus simple de laisser tomber, mais je ne peux pas. Je l'aime. Ah zut, zut et zut.
On aimerait avoir un amoureux comme ça, parce qu'il est jusqu'au boutiste, il n'est pas franchement heureux, mais il reste quand même.
Oui. Bah moi, je le reconnais jusqu'au mot emmerdeuse.
Ah bon?
Là, l'identification cesse soudain.
Ah bon, vous ne pensez pas emmerdeuse?
Non.
Ah mais c'est, oui, peut-être emmerdeur.
Alors, on a quand même deux très jolis textes avec votre feuille de route et qui, d'après vous, ne ressemblent pas à l'original que vous avez voulu texter. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu
Jacques,
texter
Jacques, si, finalement, on a l'impression d'écouter une traduction du texte que j'ai voulu texter.
C'est quoi?
Qui est un texte en anglais.
Ah bon?
Oui, donc l'anglais est plus succinct que le français, comme toujours.
On n'a pas le droit de faire ça.
Oui, mais c'est un anglais que vous allez comprendre.
Ah bon?
Oui. Parce qu'on vous exprime votre approbation et vous, vous exprimez vos réserves extrêmes. C'est « You say yes, I say no ».
Ah, « You say yes,
voilà.
C'est quoi, ça ?
I say no ». C'est une chanson de Paul McCartney.
Ah, je déteste les vidéos.
Et voilà. Alors, évidemment, vous voulez que ça s'arrête
Mais quelle honte.
Et vous ne voulez pas abandonner. « You say stop and I say go, 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 go ». Oh, no. Voilà. Les paroles définitives. « You say goodbye ».
And I say hello.
Hello, hello.
Hello, hello.
And I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello.
Et il y a bien le côté obsessionnel.
Voilà, c'est une honte.
Non, pas du tout.
Je le dis publiquement, c'est une honte.
Et moi qui croyais que c'était Hamlet, to be or not to be, je ne vais pas si loin.
Eh bien, c'est pas si loin.
C'est pas si loin. Justifiez quand même un petit peu.
Eh bien, vous attaquez sec pour claquer le bec en prenant de la hauteur. On vous répond avec petitesse et avec bassesse. I say high, you say low. Je dis en haut, tu dis en bas.
Voilà.
Bah, c'est comme le couple de Jacques Vallée.
Oui, ça interpelle. Oui. C'est à vous qu'on demande des explications. You say why? Tu dis, mais pourquoi? And I say, I don't know. Et je réponds, je ne sais pas. C'est le couple de Jacques, vous voyez. Oh non. You say goodbye, and I say hello. C'est bien cette rupture. C'est bien cette histoire.
C'est précisément l'histoire de Jacques.
Quelle clairvoyance.
Oui.
Hello, goodbye, hello, goodbye. Hello, hello, c'est les interjections, ça.
Oui, sauf que mon anglais est moins fidèle.
À mon avis, il est aussi minimaliste que celui de cette chanson. Ça va très bien,
mais comment on dit zut en anglais?
Zut.
En fait, Jacques Vallée, c'est le cinquième Beatles. J'ai toujours dit.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Claude Niort. À retrouver pour le podcast pendant un an sur franceculture.fr et la réécoute pendant 1000 jours sur la page des Papous du 1er février, page sur laquelle vous pouvez poster vos remarques, réflexions, questions, rubrique commentaires, on aime bien vous lire. Et puis, baladez-vous dans nos pages livres des Papous et Vie du Club pour trouver les infos sur les Papous sans dessus dessous. À Boulogne-Billancourt, dimanche prochain, 8 février, les expos de Ricardo Mosner, le spectacle de Jeanne Carillon à Paris, Chantoulipo. Au revoir, je passe le témoin Antoine Perrault, qui prend le relais des Papous avec Tire ta langue. Passez un très bel après-midi bien au chaud sur France Culture.